OK, alors bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah, voilà, je vous invite à prendre place. Si vous voulez une copie des notes de cours, vous pouvez les prendre sur la table dans l'entrée. Je m'appelle Yannick Étier et on est dans le cours L'âme sœur. Ce matin, on devrait couvrir, toujours avec optimisme, deux leçons, terminer la leçon de la semaine dernière et couvrir celle de cette semaine. On est dans la deuxième partie du cours. On est dans la deuxième partie du cours sur les fréquentations. Donc, la première partie du cours était sur le célibat, puis la deuxième partie du cours est sur les fréquentations. On va dire un mot de prière pour commencer. Père éternel, merci pour ce temps qu'on peut prendre en Église ce matin. Seigneur, c'est bon de se retrouver entre frères et sœurs. Personnellement, tu le sais, mon cœur a été bouleversé toute la fin de semaine avec ce qui s'est passé à Paris et... Ça me fait du bien de retrouver la famille de Dieu ce matin. Je te prie, Père, de nous bénir alors qu'on s'assemble pour réfléchir, apprendre de ta parole, apprendre de tes préceptes, t'adorer, te célébrer, être là les uns pour les autres, Seigneur. Je pense à ceux et celles de l'Église qui viennent de France. On te demande, Seigneur, de les consoler et de nous aider, Seigneur, à être là pour leur témoigner notre affection, leur témoigner notre support, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, donc, on complète la leçon 6, j'ai dit. Oui, 6 premiers pas. J'ai un petit blanc. Je sais que je vous avais donné un devoir pratique. Est-ce qu'il y en a qui ont eu le courage de faire le devoir pratique? Ah, oh, OK. On a quelqu'un qui l'a fait. Y en a-t-il d'autres qui ont fait le devoir pratique? Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi? Vous n'avez pas fait votre devoir. Moi, je vous disqualifie du mariage. Pas fait de devoir, c'est quand même votre deuxième décision la plus importante dans votre vie. Là. Vous ne faites pas ça sans commencer à fréquenter, avant de commencer. Vous faites ça avant de commencer à fréquenter. Comment? Donc, le devoir pratique, c'était quoi? Écrivez, c'est quoi les critères bibliques et dans votre cœur que vous aimeriez retrouver chez la personne que vous aimeriez marier. Et puis, priez là-dessus, puis Dieu va si je peux dire, émonder cette liste-là, l'ajuster au fur et à mesure des mois. J'ai vraiment confiance en ça. juste voir là. Si je ne m'abuse, on était rendu à quelques réflexions sur l'attrait physique et la romance. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Pas du tout. Donc, je peux vous dire n'importe quoi. C'est là qu'on était rendu. C'est parfait. Quelques réflexions sur l'attrait physique et la romance. Est-ce que ça compte bibliquement? Selon la Bible, est-ce que c'est important ou non l'attrait physique? J'espère que vous avez deviné, c'est une question piège. Est-ce que vous allez avoir de la coco? La réponse est oui, ça compte. Hein? Cantique des cantiques, c'est clair. Donc, c'est pas quelque chose qui est à mépriser, puis à super spiritualiser, puis à se dire, ça n'a aucune importance cette affaire-là. En même temps, la vérité, c'est que si vous trouvez la plus belle maintenant, je vais dire quelque chose d'un peu grossier. Quand vous allez avoir 45 ans, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de belles jeunes filles. J'étais avec deux amis de mon âge dernièrement, puis on disait, man, plus on vieillit, on dirait plus les jeunes filles sont belles. Puis c'est juste mon cœur qui veut comme aller là, vous comprenez? Fait que si tu trouves la plus belle, ben ça sera pas ça. Il va falloir que ce soit la plus belle dans ton cœur toute ta vie. Fait que c'est pas sur ça que tu vas bâtir ton mariage. Ça, c'est la vérité. D'accord? Donc, je pense que c'est quelque chose à tenir compte. Bibliquement, je pense que ça se défend très, très bien de dire que c'est quelque chose qui devrait jouer à quelque part dans tout ça. Mais j'apprends à travers les années plutôt à trouver mon époux, mon épouse belle ou beau, même physiquement, parce qu'il y a de l'affection qui est là aussi, à travers les années qui nous transforment, d'accord? Mais donc, ce n'est pas quelque chose à négliger, puis ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas un bon fondement, disons. C'est quelque chose pour allumer, mais ce n'est pas quelque chose qui nous permet de construire. Proverbe 31-30, « Le charme est trompeur et la beauté est vaine, mais une femme... » Excuse, il manque des petits bouts de ma phrase. Comme un bug dans mon... Quelqu'un qui connaît par cœur? Ah, ben allez-y donc, lisez-moi là. Parce que moi, il me manque un petit morceau. Amen. Amen. Et est-ce que j'ai dit la semaine dernière comment j'ai remarqué mon épouse? Est-ce que j'ai mentionné ça? Oui, non? Non? Oui, je l'ai dit. Dans la prière. Dans la prière. Moi, c'était ça pour de vrai. J'avais déjà remarqué Esther un peu avant, comme j'avais remarqué, en fait, toutes les filles de la jeunesse, quand je suis arrivé. Tu sais, c'est pour de vrai, c'est comme ça, hein? Tu les remarques toutes, puis là, tu commences à réfléchir, puis à te projeter, puis... Soyons honnêtes, là. Fait que, mais à un certain moment donné, on a un temps de prière en la jeunesse ensemble, puis j'entends Esther prier, puis là, c'est celle qui s'est démarquée. Puis je veux pas faire mon super spirituel. Si mon histoire était autrement, je vous la dirais, là. Je vous dis mes bons coups, mes mauvais coups. Mais c'était ça, vraiment. C'était ça, vraiment. Puis honnêtement, j'ai jamais regretté d'avoir eu ce premier coup de foudre-là dans un temps de prière. Parce que pour moi, c'était ça qui allait être le vrai fondement. D'accord? Si Esther ne m'avait pas plu physiquement, pas sûr que ça aurait fonctionné. Donc, il y avait un attrait, mais c'est là pour moi que j'ai dit, « je pense que ça, c'est celle que j'aimerais marier. » Puis c'est là qu'on a commencé, dans les mois qui ont suivi, à discuter ensemble, puis tout ça. C'est la même chose avec la romance. C'est la même chose avec la romance. La romance devrait faire partie du mariage, à mon avis, bibliquement, à tous les stades de la vie. C'est sûr qu'il y a des moments qui peuvent être plus difficiles que d'autres, mais on devrait poursuivre la romance à tous les stades de la vie. Proverbe dit « à l'homme soit enivré de ses charmes », il parle de son corps, littéralement, il parle de ses seins. Fait que, il y a vraiment cette idée qui, ça doit être là, cette passion-là dans un couple, puis ça doit être cultivé. Mais encore une fois, ce n'est pas le fondement. Dans le cours, dans le matériel de Capitol Hill, il disait c'est comme la vitrine, c'est la façade du magasin, la romance. Puis oui, c'est beau une belle vitrine, ça annonce qu'est-ce qui se passe dans le magasin, puis tu veux rentrer ou tu veux pas rentrer. Et donc, ça devrait être là. On devrait cultiver ça. Et donc, ça a une importance, mais ça demeure pas le fondement, en réalité. Mais ce serait, à mon avis, vraiment insensé, par exemple, pour un homme qui est pas romantique, de dire tu vois, ce n'est pas le fondement, donc ça ne sert à rien. Tu n'as vraiment pas compris c'est quoi l'amour. Tu ne sais pas c'est quoi l'amour biblique. Dieu se sert d'un langage romantique par rapport à Israël, par rapport à l'Église. Je ne sais pas si vous allez me suivre dans cette réflexion-là. Okay? Je sais que c'est cru un peu ce que je vais dire, mais Dieu est extrêmement théâtral. Le fait que notre salut a été acquis par une mise en scène. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'était que Jésus, comme il ne vivait pas toute la souffrance, il vivait tout cela véritablement, profondément. Mais il y a une mise en scène incroyable quand même pour accomplir notre salut. Ça se passe dans un contexte extrêmement dramatique. D'accord? Tout l'univers est comme ça. Dieu a fait une mise en scène incroyable avec un univers qui est beau, avec des plantes qui sont belles. On vit dans un environnement qui est beau. Dieu nous a donné les sens pour apprécier cette esthétique-là, que ce soit l'ouïe, l'odorat, les yeux, le toucher. Pour moi, c'est profondément insensé de la part de quelqu'un qui est moins sensible à ça et moins romantique de mépriser ces choses-là. Pour moi, c'est vraiment le comportement de l'insensé. En même temps, on veut pas faire une idole de tout ça puis dire j'arrive pas à éprouver de l'amour pour toi parce que il y a plus cet amour romantique en ce moment entre nous deux. Ben l'amour ne se définit pas par la romance. C'est plutôt une des manifestations, la romance est plutôt une des manifestations, une des expressions de l'amour. D'accord? Mais c'est pas le fondement de l'amour du tout. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez clair ce que je mentionne ici? Oui? Ça va? Initiation de la relation. Il me semble que j'avais mentionné ça la semaine dernière. C'est bien que ce soit l'homme qui initie la relation. Ça ne va pas être comme ça dans tous les cas. Mais l'homme va devoir trouver sa place comme chef de son foyer, puis apprendre à conduire son foyer. Puis mesdames, si comme il faut que vous l'écriviez en caractère gras sur le mur pour qu'il commence à bouger ou des choses comme ça. Et peut-être, mais peut-être que vous allez devoir faire ça pour beaucoup de choses aussi plus tard dans le mariage. OK? Fait qu'idéalement, oui, je pense que c'est vraiment bien parce qu'on s'en va vers un modèle biblique où beaucoup du leadership dans le foyer, c'est vraiment pas d'être le patron de la shop puis dire c'est comme ça que ça se passe puis c'est là qu'on s'en va. Beaucoup du leadership, c'est prendre l'initiative. Prendre la responsabilité d'une situation puis prendre l'initiative d'une solution. D'accord? C'est beaucoup ça le leadership de l'homme dans un foyer. Puis quand les hommes chrétiens font ça, ça fait une différence énorme. Je ne vous dis pas que c'est magique puis que toutes les épouses collaborent de manière parfaite. Donc, il y a des femmes qui ont leur péché, qui sont querelleuses puis qui ont juste leur idée, mais ça fait une énorme différence quand les hommes font ça. Sam? Le diable n'est pas bienvenu ici, mais on t'écoute. Oui. C'est peut-être un indicateur de son potentiel comme leadership. C'est juste ça que je dis. Ben oui, c'est certain. Dans le fond, si je comprends bien ta question, c'est écoute, si la fille, tu n'as aucun indice que la fille est intéressée, je ne sais pas si vraiment tu veux faire des moves. C'est un petit peu ça ton point? Une réponse? Bien, c'est une bonne question, OK? Comment est-ce que l'homme va discerner si elle a de l'intérêt, si c'est toujours lui qui fait tous les premiers pas et tout ça? C'est une bonne question, mais moi, je vais vous dire quelque chose, les gars, sur le leadership. Le leadership, c'est accepter de prendre beaucoup d'initiatives et avoir de l'air colon souvent. OK? C'est ça, le leadership. C'est ça que je fais dans mon leadership à l'église. Si vous êtes chef en entreprise, c'est prendre des initiatives, vous tromper et avoir de l'air tata. Ben, s'il faut que tu aies de l'air tata trois fois pour trouver la fille qui est celle qui va accepter ton invitation, ben fais-le. Puis vis avec cette humiliation-là parce que tu vas avoir de l'air tata souvent comme leader. Tu vas prendre des initiatives. Ça fait partie de cette game-là. Puis ben, les sœurs, soyez gentilles, soyez respectueuses. Admirez le courage de celui qui ose s'avancer puis se préparer à recevoir un refus. C'est extrêmement courageux. Oui, Linda. Pardon? Ben oui, absolument. Non, absolument. Absolument, là, je ne voudrais pas communiquer que le leadership de l'homme dans le foyer, c'est qu'il dirige, puis elle, c'était. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Non, je m'excuse si j'ai communiqué ça d'aucune manière. Mon épouse, à mon avis, est bien souvent beaucoup plus brillante que moi dans ses conseils. Puis j'ai absolument besoin de discuter avec elle. Puis 99% de nos décisions, on cherche un consensus dans ce qu'on fait. Mais moi, comme chef de foyer, j'ai la responsabilité de prendre l'initiative. Puis ça ne veut pas dire qu'elle n'en prendra pas d'initiative. Mais moi, j'ai la responsabilité de le faire définitivement. Je peux défendre le contraire. Je peux dire bibliquement, une sœur en Christ, c'est quelqu'un qui a un discernement par l'Esprit-Saint puis qui a la responsabilité, si elle voit quelque chose, de parler puis prendre l'initiative. C'est vrai aussi. Mais la notion de chef, c'est de me sentir responsable de la situation. D'accord? Et donc, de ne pas laisser les choses traîner lorsque j'ai conscience de quelque chose. Puis, dans l'approche des fréquentations, bien, cette compréhension-là du leadership peut se manifester ou non. Je ne suis pas en train de dire qu'une fréquentation où la fille ferait les premiers pas et vouait à l'échec, ce mariage-là va aller tout croche. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai essayé de le dire sans légalisme, d'accord? C'est bien idéalement de voir ça parce que c'est un bon indice. C'est juste ça que je suis en train de dire, d'accord? Le gars qui n'a pas le courage de faire les premiers pas puis d'avoir de la tata des fois en recevant un non, bien, ça se peut qu'il manque de courage pour bien des décisions aussi plus tard. Je fais juste dire ça, d'accord? C'est comme un rule of thumb là, que je suis en train de donner, une règle de sagesse générale. Il faut vraiment qu'on avance. Sam, brièvement, puis je passe au prochain appel. Non, je pense que ça me pose la question si cette image-là du leadership, de la relation homme-femme, ne serait pas plus inspirée de la culture que des Écritures. Non, je pense que c'est hyper limpide dans Éphésiens 5. Je pense que je le dis avec beaucoup de gentillesse. Je pourrais être beaucoup plus direct que ça avec Éphésiens 5. Je pense que c'est là partout dans les Écritures. Puis il faut faire attention. Il faut faire attention que ce soit la culture qui nous enseigne tout sur l'amour. Mais non, pas du tout. Dieu nous a créés de valeur égale, avec une intelligence égale, mais la notion de complémentarisme dans la dynamique du couple est super claire dans les Écritures. Chacun est appelé à un rôle différent. De la même manière, je vais prendre la comparaison avec la Sainte Trinité, de la même manière que dans la Sainte Trinité, ce serait vraiment difficile pour moi de dire que le Fils a moins de valeur que le Père. Ce n'est pas ça que le Père exprime à l'égard du Fils. Il dit « Voici celui en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc, je serais vraiment malvenu d'avoir la vision que parfois les non-chrétiens ont du christianisme, qui disent, ben ce père-là, je veux dire, on a un chanteur québécois qui a écrit une toune, Père Abraham, Sylvain Lelièvre, qui est décédé aujourd'hui, qui a écrit une toune, Père Abraham, je l'ai déjà raconté, puis tout le propos de sa chanson, c'est, toi, t'aurais pas fait ça, papa, t'aurais pas fait ce que Dieu a demandé à Abraham de faire, puis t'aurais pas fait ce qu'Abraham a accepté de faire lorsqu'il se préparait à sacrifier son fils. Puis Sylvain Lelièvre est en train d'exprimer le fait qu'il comprend dans cela que Dieu méprisait en réalité son fils, que Dieu avait un manque d'amour envers son fils en lui demandant de se sacrifier. C'est vraiment mal comprendre le sacrifice de Christ, c'est mal comprendre l'amour au sein de la Trinité, c'est mal comprendre quels sont nos rôles, où se situe notre valeur. Le fils a une valeur extraordinaire aux yeux du Père, le Père l'exprime clairement, et donc lorsque le fils s'en va là, je ne peux pas imaginer que le seul sacrifice qui est fait, c'est le sacrifice du fils. Ça ne va pas du tout avec la révélation biblique. Donc, la valeur du Père et du Fils ne se situe pas dans leur rôle, bien que le Fils soit entièrement soumis au Père. Leur valeur ne se situe pas là, mais ils sont appelés à jouer des rôles différents. C'est la même chose dans un foyer chrétien. C'est super clair dans les Écritures. D'accord? C'est pas au contraire, la culture, il y a vraiment un mouvement profond. Il y a une vague de fond égalitarienne qui dit non, on est appelé exactement, jouer exactement les mêmes rôles dans le foyer, il n'y a pas de distinction de rôle, c'était une question culturelle de l'époque, c'est plus applicable aujourd'hui. Tu ne peux pas défendre ça quand tu étudies l'apôtre Paul, tu ne peux pas défendre ça quand tu étudies la Genèse, par exemple. Ce n'est pas culturel. Et tout ce que je dis, c'est que dans mes fréquentations, j'exprime déjà des choses sur mes qualités, mes forces, mes faiblesses. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, vous m'envoyez un courriel, on en discute à un autre moment. Je suis désolé, c'est juste qu'il faut que j'avance un petit peu, mais non, je pense, pour répondre à ta question, Sam, je pense que c'est vraiment pas un élément culturel. C'est profondément biblique. OK, on va revenir sur le dernier point dans la prochaine leçon. Donc, passons à la leçon 7. Où aller à partir d'ici? Donc, on a une situation où les deux ont exprimé leur intérêt. C'est clair qu'il y a un intérêt mutuel de part et d'autre. Vous allez voir, ça va faire vraiment oldies le cours parce qu'on va vous accompagner comme, OK, c'est quoi ta prochaine étape? C'est quoi que tu vas faire maintenant à chacun des pas dans tes fréquentations? Moi, j'aime ça, je trouve que c'est pratique, c'est concret quand même. Fait que l'expression d'intérêt est manifestée, c'est évident. Le gars a peut-être fait les premiers pas pour poser la question, est-ce que tu serais intéressé à ce qu'on prenne un peu plus de temps pour se connaître? J'ai de l'intérêt pour toi, tout ça. Puis la fille l'a pas reviré de bord. Fait que qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Où est-ce qu'on s'en va? Donc, je ne vais pas faire toute la révision. Au début de la leçon, on prend le temps de réviser un petit peu tout ce qu'on a vu la semaine dernière, mais je veux avancer dedans. Vous avez des questions que la femme pourrait se poser lorsqu'elle est en train de... Un gars t'approche, puis il dit, moi j'ai de l'intérêt, tout ça, puis tu dis, écoute, oui, peut-être, j'aimerais essayer de réfléchir peut-être une semaine ou deux, puis on s'en reparle, puis là tu dis, OK, c'était quoi mes questions? J'avais-tu fait mon checklist que Yannick m'avait parlé? Est-ce que j'avais des questions de prête? Vous avez des questions ici qui peuvent vous aider à réfléchir. Si déjà vous répondez à ça catégoriquement non, je ne sais pas si vraiment vous voulez comme vous engager un peu plus loin. Comme j'ai dit la semaine dernière, J'ai eu cette discussion-là à nouveau avec quelqu'un cette semaine. Comment je vous dirais ça? Les forces et faiblesses de notre caractère, puis les convictions profondes qu'on a, tout ce qui va changer dans ça, à l'intérieur des fréquentations, n'est pas du tout garant de l'avenir. Tu arrives dans les fréquentations, puis ta conviction, c'est que l'église locale, c'est plus ou moins important. Mais là, dans les fréquentations, tu sais, ton futur, lui, il croit à ça. Faut que tu t'attaches à une église, faut que tu sois placé sous l'autorité, la protection d'une église, faut que tu sois en communion, faut que tu serves là. La notion de corps, c'est pas juste le corps universel, c'est un corps local, tac, tac, tac. Ouais, OK, ouais, je pense que c'est bien, tout ça. Change de conviction pendant les fréquentations. Zéro garantie que ça va être vrai dans 3 ans. D'accord? Parce qu'on est dans une période de flirt. Vous comprenez? On est dans une période de flirt. T'es pas prêt à renier ta mère et ton père, mais presque, tu sais, parce que tu es en train de flirter. C'est ça qui se passe. Fait que tu peux développer toutes sortes de belles convictions dans cette période-là, mais elles ne sont pas garantes de l'avenir. Et ce que je mentionnais à quelqu'un cette semaine, c'est que personnellement, ça fait 20 ans là, que je suis dans le ministère, ben, je ne suis pas capable de me rappeler une seule situation où un couple s'est engagé dans les fréquentations. Puis des questions importantes sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord, puis ils ont trouvé un accord pendant les fréquentations, je ne suis pas capable de me rappeler d'aucune situation où ça a tenu après. Quand la lune de miel est terminée, on redevient beaucoup plus qui on est. Je ne suis pas en train de dire que, par exemple, le cours de préparation au mariage est inutile parce qu'on n'est pas... Non, on est en train d'apprendre à fignoler des trucs, à mettre des mots sur des choses qu'on comprend sur le mariage, à s'équiper. Mais ce que tu es fondamentalement dans tes convictions profondes, les merveilleuses transformations extrêmes qui se passent dans des fréquentations, ça a autant de valeur qu'une émission comme Transformation extrême. D'accord? Ça, c'est mon expérience pastorale. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis que les indices qui sont là avant sont très probants de l'avenir. Puis, il n'y a personne de parfait. Fait qu'on se marie, puis Dieu continue à nous transformer. Dieu va continuer à changer les choses profondément dans les années à venir. Comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire que le Yannick qui s'est marié il y a 23 ans n'a pas été transformé davantage à l'image de Christ depuis. Définitivement, il l'a été. Mais si Esther s'était dit, « Ah, le gars que Yannick est maintenant à 23 ans, après 23 ans de mariage, je l'ai vu apparaître dans les fréquentations, puis ouf, on est rendu, wow! » Oublie ça, là. Le jour des noces, Esther, les vœux qu'elle doit faire dans son cœur, c'est « Seigneur, je le marie comme ça ou pire. Puis je l'aimerai comme ça toute ma vie ou pire. Parce que tu fais ce que tu veux avec lui quand tu veux. » Ça, c'est tes vœux de mariage. Parce que c'est ça la compréhension de l'amour biblique. D'accord? C'est que mon amour n'est pas conditionnel à son amour. Maintenant, on va s'investir tous les deux dans cette relation-là. Il va y avoir des belles choses, mais c'est un fondement. Avez-vous des questions sur ça? Oui, Sam, as-tu une question? Ça veut dire que c'est la femme totalement qui fait vivre le foyer? C'est assez rare, ça va arriver. C'est une très bonne question. Pour moi, si ça arriverait, je serais beaucoup plus à l'aise si ça arrivait par nécessité que par conviction. Je serais beaucoup plus à l'aise avec ça. J'ai absolument aucun problème avec les femmes qui ont une carrière. J'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'on cherche le trouble. Dans l'éducation de nos enfants, si l'épouse ne prend pas la responsabilité première de la petite enfance, de l'éducation pendant la petite enfance, qu'il y ait carrière ou non, ça demande des ajustements. Je pense qu'on court après le trouble dans ce temps-là. Je pense que l'homme doit être extrêmement présent lorsqu'on passe la petite enfance puis on arrive en préadolescence. Vous comprenez, ce n'est pas coupé au couteau, là, Je pense que le mari doit vraiment s'investir énormément et être disponible. Ce n'est pas le bon moment quand tes enfants arrivent à la préadolescence de faire des décisions de carrière débiles puis qui vont faire que tu ne seras plus là. Fait que je pense qu'il y a des situations qui pourraient arriver où, par nécessité, parce que Dieu a permis ça comme ça, c'est elle qui va pourvoir davantage. Je ne le vois pas comme une situation idéale, personnellement, pour répondre à ta question. Puis je pense que ça prend beaucoup de maturité pour négocier ça dans le couple. Je ne le verrais pas comme un modèle à poursuivre. Fait que je comprends que souvent, je ne vous donne pas des réponses tranchées au couteau. Là, toute la discussion sur les amitiés, gars, filles, hors mariage, dans le célibat, blablabla, tout ça, je vous ai évoqué des principes plutôt que juste des remèdes puis des solutions coupées au couteau. Mais c'est parce que je ne veux pas aller au-delà des Écritures. D'accord? Je ne serais pas à l'aise de dire bibliquement que la femme ne devrait pas être celle qui rentre vraiment le salaire à la maison, tout ça. Il reste que dans toutes les sociétés à peu près, l'homme étant bibliquement étant appelé à être chef dans son foyer, l'idée d'être celui qui va pouvoir prendre, porter sur ses épaules premièrement cette charge-là, ça reste quelque chose, d'après moi, d'assez fondamental. Fait que mon conseil, puis c'est ça que je dis dans les cours de préparation au mariage, vous mariez, puis la dame a une carrière, tout ça, ou elle a un métier, tout ça. La chose la plus sage à faire, c'est budgéter tout votre budget juste sur le salaire de monsieur, au complet. Payez votre maison plus vite, préparez votre retraite, soyez généreux. Je veux dire, même les non-chrétiens qui sont des bons conseillers financiers vous diraient que c'est la chose la plus sage à faire. Parce que vous êtes capable d'assurer lorsqu'il y a des moments difficiles. D'accord? Donc, une situation nécessaire pourrait faire que oui, à ce moment-là, c'est mon épouse qui va le faire, qui va pourvoir. Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux vous donner à ce moment-ci. Vous pourrez me poser des questions par courriel, encore une fois, ça me fait plaisir. Alors, étape préliminaire, on est toujours dans les notes. À présent, nous voulons regarder comment les chrétiens devraient se comporter dans ce que nous appellerons les premiers pas d'une relation de fréquentation. On va regarder ça sous l'angle de mise en garde et d'encouragement. Donc, un côté plus négatif, faites attention à ceci. Un côté plus positif, assurez-vous de ceci. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8, je vais les lire rapidement. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Okay, évidemment, ce passage-là a des implications beaucoup plus larges que les fréquentations. Ça touche à peu près à toute la vie chrétienne, au domaine des affaires, des choses comme ça. Mais il y a des applications aussi dans les fréquentations. Et puis, un des éléments, c'est l'idée de tromperie. Dans nos rapports les uns avec les autres, puis même dans nos rapports à nous comme chrétiens avec les non-chrétiens, le chrétien n'est jamais appelé à user de tromperie. On n'est pas appelé à manipuler les gens. Des fois, on peut le faire involontairement. Là. On me confronte souvent avec ça à la maison. « Papa, arrête, tu es en train de juste comme nous mettre en boîte, puis tu vas avoir le résultat que tu veux. » Je suis désolé, je n'étais pas conscient de ce que je faisais. Mais le chrétien n'est pas appelé à faire ça. On est appelé à être vraiment honnête. Les fréquentations qui servent à jouer un jeu, les fréquentations qui servent au flirt, les fréquentations qui n'ont pas été considérées sérieusement en vue du mariage, à mon avis, à moi, c'est une fraude. C'est de jouer avec le cœur des gens, c'est de jouer avec l'autre. Puis souvent, à notre époque, quand on parlait de culture, ben les deux jouent à ce jeu-là, d'accord? Alors, si on était dans le monde, c'est pas vraiment un jeu parce qu'il n'y a pas nécessairement de promesses, d'accord? C'est pas nécessairement une fraude, il n'y a pas nécessairement de promesses. Mais quand on est chrétien puis on fait des fréquentations comme dans le monde, c'est-à-dire que C'est un jeu, on joue à ce jeu-là, puis peut-être qu'en jouant à ce jeu-là, je vais découvrir l'amour véritable, celui que je vais vouloir épouser. Souvent, malheureusement, dans beaucoup d'églises, les deux qui s'engagent dans les fréquentations sont en train de jouer ce jeu-là. Ils savent, je vais peut-être en fréquenter 6 avant de trouver le bon. C'est une fraude, c'est de la malhonnêteté, c'est de jouer avec l'autre. Puis à un certain moment donné dans le processus, il y en a un des deux qui va souffrir, parce qu'il y en a un des deux qui va se faire prendre au jeu. Je n'ai pas besoin de jouer tout ce jeu-là avant de savoir si cette personne-là m'intéresse véritablement comme épouse ou comme époux. D'accord? Et on a une responsabilité de prendre soin des gens autour de nous en ne les trompant pas comme ça, en ne jouant pas ces jeux-là avec les gens autour de nous. Souvent, ce n'est pas par malice, c'est par négligence ou par inconscience qu'on va faire ces games-là. Mais surtout au début d'une fréquentation, les choses devraient être le plus honnêtes possible. Puis au fur et à mesure que ça évolue dans les premières semaines, les premiers mois, encore une fois, les choses devraient être le plus honnêtes possible. D'accord? Puis si je dis, écoute, j'ai plus de doutes que de certitudes, engagez-vous pas dans une affaire romantique. Commencez pas à mêler tout ça avec de la romance, de l'affection physique. Il n'y a aucune conviction. J'aime bien comment c'est exprimé dans le cours. Notre intimité ne doit jamais dépasser le niveau de notre engagement. Notre intimité ne devrait jamais dépasser la sainteté et la pureté non plus, parce que le sexe, c'est pour le mariage. Mais avant ça même, pour moi, des fréquentations où on va installer, on s'en va manger au restaurant ensemble pour la première fois, on veut discuter un petit peu plus sérieusement de l'intérêt qu'on a un pour l'autre, juste faire des premiers pas un peu plus officiels, vraiment. Oui, OK, j'ai accepté une invitation, tout ça. Tu finis ce soir-là en marchant main dans la main, en train de t'embrasser dans le stationnement. T'es vraiment tata. Je m'excuse, je peux vous le dire plus gentiment si vous voulez, je peux sortir mon violon, mais c'est pas mon genre. T'es vraiment innocent parce que vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal. Vous allez jouer à quelque chose. Vous avez installé déjà un paquet d'affaires qui sont totalement inappropriées. Totalement inappropriées. Si à ce moment-là, votre engagement n'est pas plus sérieux que ça, vous ne devriez pas vous comporter avec cette fille-là plus que la manière que moi, le pasteur, voudrait que je le fasse avec elle. C'est ma petite sœur dans le Seigneur, tu devras avoir le même comportement avec elle. Tu devras avoir le même comportement avec lui. D'accord? Fait que c'est juste de prendre soin de l'autre. C'est juste d'être sage, de ne pas mêler les trucs trop vite. Encouragement positif. À présent, nous allons examiner la perspective positive sur la manière de nous comporter dans nos fréquentations. Romains 13, 8 à 14. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité ou de l'impureté, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, les chrétiens sont appelés à s'aimer les uns les autres. C'est vrai autant dans nos fréquentations, encore plus dans nos fréquentations, puis dans notre mariage que n'importe où ailleurs. Ça veut dire que l'amour dans lequel je vais m'engager, ça ne va pas être premièrement une réponse émotive à un attrait physique. D'accord? L'amour qui va m'amener à poser les premiers pas, à aller m'asseoir avec quelqu'un, à m'engager dans des fréquentations, ça ne va pas premièrement être une espèce d'élan amoureux, émotif, basé surtout sur une attirance. C'est une relation où je vais aimer les gens, je vais chercher à prendre soin de l'autre dans les fréquentations. C'est vraiment différent de ce qu'on voit dans le monde en général. Dans les fréquentations, dans le monde, il y a cette idée, je veux être là pour toi, mais ce qu'on est en train de vivre, là, l'électricité qui est entre nous deux, la chimie qu'il y a là, fait qu'on va se laisser porter par cette affaire-là. On va se laisser porter par ces sentiments-là. Et puis, c'est eux qui vont nous guider, qui vont nous enseigner comment prendre soin l'un de l'autre. Puis c'est l'émotion, la prochaine émotion, elle nous amène où? C'est quoi notre prochain pas? Est-ce que tu le files? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on s'en va là? D'accord? Puis là, les gens dans le monde se font mal une fois, deux fois, trois fois, tirent quelques principes de sagesse, décident d'être un petit peu plus raisonnables pour la majorité d'entre eux dans ces élans-là. D'accord? C'est pas ça, aimer quelqu'un. C'est pas ça, aimer quelqu'un. Moi, je veux dire, j'ai deux ados à la maison, puis si je suivais toujours mes sentiments envers eux, ça pourrait être ordinaire des fois. Parce que la chimie entre nous n'est pas toujours extraordinairement romantique et merveilleuse. Puis j'ai deux bons enfants. Vraiment. On est vraiment bénis. Mais vous comprenez, ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour envers mon prochain. Ce n'est pas ça l'amour envers mon épouse. Ce n'est pas ça l'amour envers mes enfants. L'amour, c'est premièrement ce choix d'être là l'un pour l'autre, de se donner, de me donner pour l'autre. Puis mes fréquentations devraient manifester ça. Je devrais être là pour prendre soin de l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais clarifier mes intentions. Un petit peu comme je disais tout à l'heure, je vais clarifier mes intentions. Je vais être limpide. Je vais prendre soin déjà dès le début du cœur de l'autre personne. Si pour moi, ce n'est plus une question simplement d'amitié, mais on veut vraiment envisager le mariage, je vais le dire clairement. Si l'autre n'est pas prêt à ça, on va s'entendre sur ça clairement. On va être super limpide. Je vais communiquer clairement que mon intention, c'est de me marier avec toi. À mesure où Dieu confirme dans les prochains mois, puis qu'il n'y a pas de lumière rouge, puis que ça va, c'est ça mon intention. Oui, Paul. Ouais.
Je donne trois options. arrêter automatiquement les fréquentations puis se remettre en question. Penser que parce qu'on s'est unis physiquement, on est déjà engagé dans le mariage. Certains pensent ça.
Je sais.
Certains pensent ça. Bien, on a besoin d'une cure d'âme qui fait qu'on pourrait continuer les fréquentations mais sous supervision.
Là, je veux juste répéter ta question avant de me commettre. J'ai oublié ta première option, c'est?
Première option, c'est d'arrêter...
Complètement. On arrête ça là. OK. Je veux juste te dire, je ne répondrai pas à ta question ce matin parce qu'on va le voir dans une prochaine leçon. Mais quand même, je vais répéter ta question pour ceux qui écoutent sur le web. Maintenant, il y a des bonnes réponses assez importantes. Mais donc, la question de Paul, c'est dans le cas où il y a une relation sexuelle qui se produit dans les fréquentations, qu'est-ce qu'on fait? Premier choix... On arrête tout ça là, ça veut dire que c'est voué un échec, on sauve en courant, on coupe cette relation-là. Deuxièmement, on en déduit qu'on est marié devant Dieu, puisqu'on a consommé, pour prendre des termes qu'on utilisait à l'époque. Et puis, troisièmement, on va chercher de l'aide pour grandir spirituellement, puis en adressant, on va chercher de l'aide à l'extérieur pour régler des problèmes qui nous ont conduits à ça. Et je ne répondrai pas à cette question tout de suite, parce qu'il y a une leçon sur ça, vraiment. C'est bon, hein? Mais disons que si ça arrive à cette étape-là, là, vous avez un sirop de problème. Si ça arrive à cette étape-là, appelle le pasteur, sauve-toi en courant, envisage de faire une demande de passeport. OK? On a vraiment des problèmes, là. Je veux dire, sérieux, là? Puis ça arrive. Malheureusement. OK. Donc, le point que je veux faire ici, c'est que si la jeune fille ou si le jeune homme avec qui vous commencez des fréquentations, ou si ma femme elle a 40 quelques années, c'est encore une jeune fille. Okay? Quand je dis une jeune fille, c'est jusqu'à, mettons, 92 ans. C'est bon? Fait que si cette personne-là que vous rencontrez, avec qui vous commencez des fréquentations, est dans votre assemblée, à mon avis, puis là j'y vais avec ma conviction de l'époque, mais mon expérience qui s'est confirmée à travers le temps, il y a plein de contextes dans la vie de l'Église avant des fréquentations pour que vous connaissiez cette personne-là 60-70% de ce qu'il y a à connaître. D'accord? Ça, c'est important. C'est important de profiter de ça. C'est peut-être différent si vous rencontrez cette personne-là dans un camp chrétien, vous venez de deux églises différentes, dans deux régions, de la province différente, puis vous commencez échanger des lettres, tout ça, ben oui, c'est peut-être là que ça va commencer, puis il y a quelque chose qui va peut-être s'installer quand même, mais on va mettre ça clair. Je veux dire, j'ai connu des amis qui ont fait ça exactement comme ça, on en a à l'église, des belles histoires. Mais donc, il fallait qu'ils soient beaucoup plus créatifs pour avoir des moments pour s'observer puis se connaître un peu plus avant même de s'engager dans des fréquentations. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que lorsque je fais les premiers pas vraiment pour dire on s'assoit ensemble puis je voudrais qu'on se fréquente, je veux dire, il y a plein de choses que je devrais déjà savoir. J'entre pas dans cette phase-là véritablement comme dans une phase exploratoire. C'est plus une phase pour confirmer des choses, d'accord? Si vous le faites pour explorer, probablement qu'il y a un amour romantique qui va s'installer, vous allez jouer cette game-là, puis ben, comme c'était pour explorer, dire, hein, c'est ça l'exploration minière, tu fais combien de trous avant de trouver le bon? Bon, ben c'est ça, tu vas fréquenter combien de filles avant de trouver la bonne si c'est comme ça que tu le fais, OK? Fait que tu vas laisser combien de monde? Tu vas briser combien de cœurs? Puis tu vas servir avec elle plus tard, dans 15 ans. Puis tu vas être dans un ministère, sur un conseil avec des diacres, des diaconesses. Puis ces trois filles-là, je les ai toutes embrassées ou soyons crus. J'ai naqué avec ces trois-là. Ces trois-là, je les ai considérées, puis j'ai marié celle-là. C'est la famille de Dieu. Je pense pas. Ça, c'est ma vie dans le monde. Honnêtement, ça, c'est ma vie dans le monde. D'accord? Esther est obligée de vivre avec le fait qu'on croise des filles des fois, puis elle dit... Tu m'as déjà parlé d'elle, hein? Oui, malheureusement. Mais ça, c'est ma vie comme païen, d'accord? Fait que je ne dis pas que les fréquentations, je l'ai dit clairement dès le début, conduisent automatiquement au mariage. Mais disons que ce n'est pas la place pour les concours de bananes que tu peux mettre avec des noms de filles sur ta manche. Donc, vous avez de l'espace pour vous observer, pour vous connaître, pour regarder qui est l'autre à travers la jeunesse, à travers des implications, dans les ministères, à travers les petits groupes, en donnant une ride, en jasant ensemble dans un contexte qui est plus un contexte de groupe. Je veux dire, l'idéal, c'est que vous l'observiez 1000 heures avant qu'elle ait même une idée que vous avez un intérêt pour elle. C'est là que vous avez le plus de chances de connaître vraiment des choses sur elle avant que... Il commence à rentrer dans un autre mode, qui est celui du flirt, n'est-ce pas? Où on s'assure d'être sur son 31. Même quand j'ai les cheveux croches, j'ai checké qu'il était bien croche avant de sortir. Parce que c'est ça la mode un petit peu, les cheveux croches. Moi, j'en ai plus assez pour m'amuser à faire ça. Intimité émotionnelle. J'ai couvert ça un petit peu. Je vais pas trop développer ça, d'accord? Mais il y a vraiment l'idée de garder mon cœur, puis de garder le cœur de l'autre. Fait qu'avant d'aller trop loin dans une intimité émotionnelle, il faut confirmer des choses. Je ne parle même pas d'intimité physique ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être froid. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine galanterie, qu'il n'y a pas une certaine romance, qu'il n'y a pas quelque chose de charmant qui est là. D'accord? Mais avant d'aller dans les grandes déclarations, je veux m'assurer que je sais que je ne les fais pas pour rien, puis qu'il y a un fondement derrière ça que je suis prêt à assumer, parce que je veux prendre soin. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de filles chrétiennes, je m'adresse aux gars, il n'y a pas beaucoup de filles chrétiennes qui vont vous trouver vraiment en poche, parce que vous l'avez juste invité au restaurant, vous avez payé le lunch, vous avez passé une belle soirée, puis vous n'y avez pas dit en partant « je t'aime à la folie, nous nous marierons demain ». Invite-la pendant 6 mois, dis-y vraiment que tu as de l'intérêt, tu la trouves charmante, puis va pas plus loin que ça. Je te dis, elle va aimer ça. Bon, peut-être à un moment donné, elle va trouver que tu es taponneux si tu ne bouges pas, mais c'est vrai les filles, non? C'est sympathique, non? Je vous invite, vous sors au restaurant, c'est charmant, non? Vous voulez pas? Les filles sont pas sûres ici, peut-être. Moi, je pense que oui, là. Elles sont juste gênées. OK. Fait que... Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on tranche au couteau. Je le marque comme ça dans le texte. Il y a une espèce de danse subtile où je ne veux pas ouvrir mon jeu pour ne pas faire mal à l'autre si les choses ne sont pas claires. Mais en même temps, il y a cette espèce de tango-là qu'on commence. Bon, le tango, c'est peut-être un petit peu trop hot comme danse, là, mais trouvez-en un autre plus simple. C'est un set carré, OK? Qu'on commence à danser ensemble juste pour voir. Moi, je suis pourri avec ça. Mais juste pour voir si on danse ensemble puis voir s'il y a un intérêt. Qu'est-ce qui va vous donner du discernement, c'est prendre soin du cœur de l'autre. C'est prendre soin du cœur de la personne qui est devant vous pour ne pas jouer avec son cœur, pour ne pas jouer un jeu. Est-ce que ça va? Puis Dieu va vous guider avec ça, il va y avoir de la sagesse si vous partez avec ces principes-là. Comment faire pratiquement? Deux éléments à considérer. La quantité de temps que vous passez ensemble pour vous parler. Bien, c'est ça. Par exemple, lorsque je conseillais des couples plus souvent avant, parce que maintenant, on a une super équipe qui le fait à ma place, mais je disais souvent aux couples, tu sais, tomber dans de l'intimité sexuelle avant le mariage, puis dire que, écoute, c'est un combat pour nous incroyable. Moi, personnellement, je ne l'endosse pas, ça. C'est toujours une question de contexte. C'est une question de contexte. J'ai pas vu beaucoup de couples en fréquentation chrétiens tomber dans un Tim Hortons. Tu sais. En général, il n'y a pas trop de combats dans un Tim Hortons. Je comprends que le Tim Hortons n'est pas un endroit romantique, mais je pense que le café crème, ça ferait la même affaire. Il n'y a pas beaucoup de danger. Fait que moi, j'arrivais du monde. Pensez à la vie la plus débauchée que vous êtes capable d'imaginer, c'était la mienne, OK? Puis c'était à fond la caisse. Vraiment, là. Pensez à tout ce que vous pouvez concevoir. À peu près tout faisait partie de ma vie. Puis je pouvais pas passer une semaine sans avoir une fille dans ma vie. Honnêtement, pour de vrai. Quand je me suis converti, j'ai dit à Dieu, puis j'ai dit à Stan quand on a commencé, ça, c'était le païen que j'étais avant. Maintenant, je suis chrétien, puis je ne vivrai pas ça. Dans mes fréquentations, on n'a pas vécu de combat. D'accord? Mais on s'était donné quelques principes. Puis c'est vrai pour l'amour romantique, qu'on ne voulait pas qu'il décolle trop vite, puis c'est vrai pour l'intimité physique. Alors nous, on avait décidé d'entrée de jeu qu'on n'allait pas commencer à se parler au téléphone. Dans le temps, c'était le téléphone. Vous autres, vous textez, là, mais pour les plus jeunes. Mais qu'on n'allait pas se parler au téléphone 2 heures à tous les soirs. Parce que c'est pas vrai que ça allait comme accélérer l'affaire. Parce que maintenant, on va passer 8 heures par semaine à parler au téléphone. On va se marier 1 an plus tôt. Non, ça ne changera rien, pas en tout. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va installer des trucs où à la fin de la conversation, tu n'as plus rien à te dire. Puis, ouais, on raccroche. Hein. Ouais, on va se laisser. Il faudrait que j'y aille. Tellement poche comme conversation. Prenez un temps 1 fois par semaine. Allez prendre un café. Échanger pour de vrai. Dialoguer ensemble pour de vrai, c'est super génial. Oui, c'est instructif sur l'autre, c'est enrichissant. Donc, dans le temps, il y a des choses à considérer pour laisser un espace pour continuer à avoir une vie normale, puis qu'il n'y a pas déjà comme cette espèce de hop, je pense que ces deux-là se fréquentent, on ne les voit plus. Oui, Paul.
Oui, dans ce contexte-là, est-ce que tu serais
Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact physique au départ? Moi, je suis super vieux jeu, mais comme je vous dis, je ne suis pas un vieux jeu qui n'a pas connu le monde. Hein. Fait que je l'ai connu à fond. Là. Puis je veux dire, je l'ai déjà mentionné ici à quelques reprises. Avant qu'on commence à se fréquenter, j'avais un ami, ceux qui ne connaissaient pas Gibeck, c'est comme la patente pour les SS, les super spirituels chrétiens qui s'en vont en mission. Okay? Fait que moi, j'avais plein d'amis qui étaient une gang de SS. Puis j'avais un ami qui avait fait un sondage caché, puis qui avait demandé, dans tous ceux qui se sont mis à fréquenter chez les Gibécois, il y en a combien qui ont tombé sexuellement dans leur fréquentation? Les stats, c'était 80%. Fait que Stamp et moi, on a dit, nous, jamais de la vie, on va être là-dedans. Fait que nous, les 6 premiers mois de fréquentation, il y avait 0 contact physique. Vous allez dire que je suis un romantique, il y avait une autre raison à ça. C'est que je voulais vraiment que pour moi, Stamp, ce soit comme la première, ce qui est impossible. Vous comprenez, dans mon cas, c'était impossible. Mais le plus possible, c'est ça qu'on voulait vivre ensemble. On voulait que ce soit beau, ces premiers moments-là, qu'on vit juste à se prendre la main. Fait que, on était des kittens finis. Là. 6 mois après le début des fréquentations, on est à Parkside Ranch, une retraite de la jeunesse, on est des leaders jeunesse. Fait que tout le monde s'en va se coucher, il y avait un foyer, on est resté un petit 20 minutes de plus, ça a été notre premier moment où on s'est touché la main. C'était super trippant. C'était comme un enfant d'école qui découvre vraiment ça pour la première fois de sa vie. C'était extraordinaire. Mais moi, j'arrivais du monde avec tout mon bagage. T'sais. Fait que oui, moi personnellement, c'est ça que je favorise. Mais je ne vais pas en faire une règle, mais je peux dire quelque chose avec certitude. La majorité des couples ont tendance à dépasser les limites qu'ils s'étaient données au début de leur fréquentation. D'accord? Il n'y a aucune raison que ça se produise. Aucune raison valable.
Oui.
Oui, mais je comprends, Paul, faire une distinction entre ceux qui viennent du monde et ceux qui ne viennent pas du monde. Au risque de péter votre bulle, là, tous les petits gars, aujourd'hui, ils ont Internet. Ils sont tous plus débauchés que je l'étais dans tout ce que je vous ai dit. Si ça ne s'est pas vécu physiquement, moi, j'ai vécu à une époque de sainteté. Là, comprenez? Je veux dire, la pornographie, là, c'était compliqué à aller voler ça au dépanneur. C'était pas simple, là, c'était beaucoup de travail. Fait que l'innocence, là, il y en a. Mais je vous dirais, des fois, même dans mon expérience pastorale, ceux qui rentrent là-dedans naïvement, justement, sont dangereux pour eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas pensé que ça pouvait aller aussi vite que ça, ces affaires-là. Fait que je pense que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. C'est bon? On va s'arrêter ici, j'ai dépassé mon temps. On complète ça la semaine prochaine, on va terminer avec un petit mot de prière. Père éternel, merci pour tes bontés. Merci, Père, parce qu'on a cet espace-là où on peut discuter de sujets aussi crus et pratiques que ça. Seigneur, je te prie de nous aider à être inspirés par toi lorsqu'on pense à l'amour, au mariage, aux fréquentations. Qu'on soit capable, Seigneur, de se protéger d'une espèce de mépris qui pourrait nous venir du monde, de choses qui sont faites avec simplicité, avec pureté, Seigneur, parce qu'on veut vraiment marcher à ta suite, Jésus. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Amen. Merci.